Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Musique. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mardi 24 mai 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal, suivi d'un commentaire politique. L'Iran s'est profondément ancré en Syrie. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, les sauveteurs travaillent dur pour aider les personnes prises au piège sous les décombres d'un bâtiment effondré dans la ville d'Abadan, au sud-ouest de l'Iran. Après son retour d'une visite officielle en Oman, Ayatollah Raisi a déclaré que les positions irano-omanaises sont en harmonie significative sur de nombreuses questions. Et puis un cortège funèbre a eu lieu pour un membre du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, qui a été lâchement assassiné dimanche dans un acte terroriste. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les sauveteurs travaillent dur pour aider les personnes prises au piège sous les décombres d'un bâtiment qui s'est effondré dans la ville d'Abadan, dans le sud-ouest de l'Iran. L'incident a coûté la vie à au moins 11 personnes. On craint que le nombre de victimes n'augmente. Des rapports indiquent que jusqu'à 50 personnes restent toujours piégées sous les débris. Quelques 29 personnes ont été retirées de l'immeuble de 10 étages qui s'est effondré lundi. L'effondrement a bloqué la route la plus fréquentée de la ville et les bâtiments environnants ont été évacués. Une enquête est en cours sur la cause de l'incident. Plusieurs personnes potentiellement responsables de l'incident sont en détention, dont le maire de la ville d'Abadan. Après son retour d'une visite officielle en Oman, le président Raisi a déclaré « Les positions de Téhéran et de Mascate sont en harmonie significative sur de nombreuses questions ». L'Ayatollah Raisi, après son retour d'une visite officielle en Oman, a déclaré lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Mehrabad que de bonnes relations entre l'Iran et Oman renforceront la coopération régionale. Lors des réunions avec de hauts responsables omanais, il a été souligné qu'il est nécessaire que les deux pays aient cette coopération au niveau régional et international, alors que les positions des deux pays sont cohérentes sur de nombreuses questions, a ajouté le président. Des activistes économiques et des hommes d'affaires des deux pays ont discuté de leurs problèmes dans le domaine du commerce, du transfert d'argent, des questions financières, bancaires et douanières lors d'une réunion entre les ministres iraniens et omanais du commerce. Les barrières seront bientôt levées pour ouvrir la voie au développement du commerce et à l'échange économique, a poursuivi l'Ayatollah Raisi. Un cortège funèbre a eu lieu ce mardi pour un membre du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI qui a été lâchement assassiné dimanche dans un acte terroriste. Des centaines de personnes en deuil ont assisté à la cérémonie de deuil, dont beaucoup portaient en main des photos du colonel Hassan Sayyad Khodaï. Il scandait des slogans contre les États-Unis et Israël. Khodaï a été assassiné dans sa voiture et juste à l'extérieur de son domicile, dans un quartier de l'Est de Téhéran. Il a été abattu de 5 balles par 2 motards. L'OCGRI et d'autres autorités iraniennes ont qualifié son assassinat d'acte de terrorisme. Le commandant du CGRI, le général de division Hossein Salami, s'est engagé à venger l'assassinat de Khodaï, affirmant que la réponse sera dure et fera regretter aux ennemis de ce crime odieux. L'Iran condamne les récentes frappes aériennes israéliennes sur des positions civiles près du Saint Mausolée de l'honorable Zeynab à Damas et insiste sur la nécessité d'une réponse décisive aux agressions du régime sioniste en Syrie. Condamnant les récentes frappes aériennes israéliennes sur des positions civiles près du Saint Mausolée d'une sainteté chiite en Syrie, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a exigé une réponse décisive à ces agressions du régime sioniste. En réponse à une question sur les récentes frappes aériennes israéliennes sur des positions près du Saint Mausolée de l'honorable Zeynab à Damas, le porte-parole du corps diplomatique a poursuivi « Malheureusement, l'indifférence de la communauté internationale face aux agressions répétitives du régime d'occupation contre la République arabe syrienne et la violation flagrante de toutes les lois et réglementations internationales ont rendu les autorités de ce régime occupant plus effrénées. Il ne fait aucun doute que le soutien manifeste des États-Unis à l'égard du régime sioniste a joué un rôle complice important dans l'augmentation de l'audace et de l'insolence de ce régime d'occupation, de sorte que ce régime non seulement continue d'occuper les hauteurs du Golan syrien, mais aussi attaque à plusieurs reprises les infrastructures de la Syrie. Lors de la récente attaque du régime sioniste, le parking des véhicules publics dans le quartier Zeynabiyé de Damas et près du sanctuaire sacré de l'honorable Zeynab a été ciblé par un missile, a ajouté le porte-parole de la diplomatie iranienne. L'ambassadeur permanent de l'Iran auprès des Nations Unies a déclaré que tout cadre adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies sur la gestion des munitions conventionnelles doit reconnaître le droit des États membres à l'autodéfense. Majid Tratravanchi, dans une allocution devant le groupe de travail à composition non limitée de l'Assemblée générale sur les munitions conventionnelles lundi, a déclaré « Nous pensons que les munitions conventionnelles doivent être manipulées avec prudence en tenant compte des besoins et des préoccupations légitimes des États membres, y compris la nécessité de répondre à leurs préoccupations en matière de sécurité nationale. L'élaboration de tout cadre de gestion des munitions conventionnelles ne doit pas compromettre les droits légitimes de tous les États aux droits inhérents à la légitime défense individuelle ou collective. Ce droit inhérent devrait englober le droit de chaque État de fabriquer, d'importer et de conserver les armes et munitions non interdites à des fins d'autodéfense et de sécurité, a noté Tartravanchi, avertissant que les groupes criminels et les organisations terroristes doivent être privés d'accès à ces armes. Enfin, nouvelle violation des droits d'un citoyen iranien détenu en Suède, Hamid Nouri, privé de contact avec sa famille depuis 20 jours. Selon le Centre d'information du pouvoir judiciaire iranien, le lundi 23 mai, la ligne de contact d'un citoyen iranien détenu en Suède, dénommé Hamid Nouri, avec sa famille est coupée depuis environ 20 jours et les membres de sa famille sont inquiets. Hamid Nouri, un ancien responsable iranien incarcéré en Suède depuis 2019 sur de fausses accusations portées contre lui par une organisation terroriste anti-iranienne appelée OMK, n'a pas été autorisé à contacter sa famille depuis les 20 derniers jours, ce qui constitue une violation éhontée de ses droits par le gouvernement de Stockholm. Selon la source, Hamid Nouri n'a pas été autorisé à appeler sa famille depuis les 20 derniers jours, ce qui a accru les inquiétudes des membres de sa famille sur son état de santé. Hamid Nouri a été arrêté à son arrivée en Suède à l'aéroport de Stockholm en novembre 2019 et a été immédiatement emprisonné. Il a été placé à l'isolement depuis plus de 2 ans. L'épouse de cet ancien fonctionnaire du pouvoir judiciaire iranien, illégalement arrêté, emprisonné en Suède, a déclaré que son mari avait été détenu sans raison ni preuve déclarée et placé à l'isolement pendant plus de 30 mois. Selon les dernières informations, les autorités judiciaires suédoises ont changé sa cellule, mais ses conditions d'incarcération ne sont toujours pas améliorées et il est toujours détenu dans une cellule d'isolement malgré de graves inquiétudes pour sa santé. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. L'Iran s'est profondément ancré en Syrie. Faisant allusion à la consolidation de l'alliance syro-iranienne en Syrie, des médias israéliens ont reconnu que Téhéran avait réussi à affirmer ses potentialités stratégiques, tandis qu'Israël a échoué dans ses objectifs. Les médias israéliens relatent des responsables, même du régime sioniste, pour dire que la République islamique d'Iran a réussi à créer ses potentialités stratégiques en Syrie, malgré toutes les tentatives israéliennes de l'empêcher. La visite le 8 mai du président syrien Bachar al-Assad en Iran a attiré l'attention des médias israéliens, y voyant le signe que l'alliance syro-iranienne restera à sa place, voire se renforcera chaque jour davantage. Entre autres, le journal Times of Israel évoque les progrès iraniens et le courage renforcé dont l'Iran a fait preuve ces derniers mois sur la donne régionale et d'ajouter que l'Iran et le Hezbollah, Dixit, ont réussi à trouver des méthodes efficaces et créatives pour relever les défis résultant de la stratégie de guerre dans la guerre israélienne. Le journal ajoute « Les attaques consécutives israéliennes contre la Syrie n'ont nullement réduit ces dernières années l'engagement et la loyauté de Bachar Assad envers l'Iran et l'axe de la résistance. Au contraire, leur alliance est plus que jamais renforcée. » Par ailleurs, Israël est sérieusement inquiet de voir la Syrie utiliser de façon plus active ses défenses antiaériennes, précise l'article de Times of Israel qui se poursuit en ces termes, Dixit. Beaucoup de pays, dont les pays arabes de la région, sont prêts à faire revenir la Syrie et Bachar al-Assad au concert des peuples de la région, ce qui assure une certaine légitimité à Assad, entravant les activités d'Israël en Syrie. Les évolutions qui ont eu lieu ces derniers temps pourraient d'ailleurs conduire à un changement d'approche iranien dans la façon dont ils réagissent aux actions d'Israël. Des efforts sont d'ores et déjà en cours de la part de l'Iran et du Hezbollah libanais qui cherchent à retracer leur nouvelle donne de dissuasion face à Israël et aux États-Unis. En effet, des médias israéliens ont été ces derniers jours unanimes à dire qu'Israël n'est pas en mesure de s'engager dans une confrontation militaire avec l'Iran aujourd'hui, encore moins à l'avenir, et que les menaces de guerres israéliennes ne dépassent pas le niveau de la parole. La chaîne de télévision israélienne Kan résume ainsi la situation. Les exercices militaires en mer Rouge transmettent un message à l'Iran dans moins de 2 semaines. Il y aura une plus grande manœuvre qui impliquera des dizaines d'avions. C'est ce qui sort tout le temps des cercles israéliens. Or, nous savons bien que l'Iran ne se laissera jamais influencer par de tels messages. L'aveu d'Israël de son échec en Syrie ne tient toutefois pas compte des détails. L'un des plus grands de ces détails serait la livraison des pièces de la DCA made in Iran. Ce lundi 23 mai, le commandant en chef de la DCA iranienne y revient en évoquant en détail les éléments de cette DCA. Ces éléments referont surface en Syrie après que celle-ci eut acquisition de la DCA à moyenne portée iranienne. On se demande. Le commandant de la force de DCA de l'armée iranienne, le général de brigade Alireza Sabahi Fard, a annoncé que le système de missiles Bavar 373 avait été entièrement intégré dans le cercle opérationnel des unités de défense antiaérienne du pays. La force de la DCA de l'armée domine, en termes de renseignements, des zones situées à des centaines de kilomètres au-delà des frontières du pays, ce qui assure, plus qu'auparavant, nos compatriotes quant à leur sécurité, a annoncé le lundi matin le général Sabahi Fard. Selon le site d'information Machrer News, qui rapporte la nouvelle, le général Sabahi Fard a énuméré les composants qui viennent d'adhérer le cercle opérationnel de la DCA grâce au savoir-faire et à la compétence des experts et techniciens du pays. Les systèmes radars Morareb, Mehraj 4, Kavosh, FAT 14, Shahab, les systèmes d'engagement de missiles à courte portée Joshan et à moyenne portée Talash, Mersad et Khordad 15, ainsi que les systèmes d'artillerie et de guerre électronique en font partie. Le haut cadre militaire iranien a également évoqué la puissance de drones de la force de DCA du pays. Pour une première fois au sein des forces armées iraniennes, nous avons effectué avec succès le test froid et chaud d'interception par le missile Azarash en utilisant un drone. L'impossible n'existe plus pour la force de DCA iranienne devenue aujourd'hui capable d'exporter aux autres pays ses savoir-faire et expertise, a-t-il souligné.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de regarder l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, l'Iran ne se laissera pas intimider par les soi-disant avertissements d'Israël après la grande manœuvre de ce dernier. Alors, une chaîne importante israélienne a qualifié ces manœuvres de pistolets vides et a dit que l'Israël n'était aucunement en mesure de mettre à exécution ses menaces contre Téhéran. Surtout qu'Israël, maintenant, se sent très abandonné par les États-Unis et les pays occidentaux depuis la crise ukrainienne. Nous allons développer cette question à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Réagissant à la plus grande manœuvre de l'armée israélienne jamais menée depuis la création du régime factice, les médias et les experts sionistes ont reconnu que ni maintenant ni dans les années à venir Israël ne pourra entrer en guerre contre l'Iran et que les menaces qu'il profère à cet égard ne sont que des mots. Les manœuvres menées par l'armée israélienne pour entrer en guerre avec l'Iran n'ont rien de nouveau et ne vont pas au-delà des mots, affirme la chaîne Kan 11 de la télévision israélienne, indiquant que les pays occidentaux engagés dans la guerre en Ukraine ont abandonné Israël à son sort. Ces dernières semaines, nous n'avons vu aucun signe indiquant qu'Israël a l'intention de bouger, déplore la chaîne en estimant qu'Israël a tenu des manœuvres justes pour rappeler aux occidentaux de ne pas laisser tomber leurs partenaires au Moyen-Orient en raison de leur implication dans la guerre russo-ukrainienne. La chaîne Kan 11 évoque par ailleurs la visite du ministre israélien des Affaires militaires, Benny Gantz, aux États-Unis, ainsi que celle effectuée par le commandant du CENTCOM en Palestine occupée, à l'issue desquelles aucun résultat n'a été obtenu pour remédier aux tensions avec l'Iran et à son programme d'enrichissement d'uranium. À son retour d'Amérique, Gantz a réalisé que le monde est pris par un défi bien plus grave, qui est la crise ukrainienne. Kan 11 fait savoir que les experts au sein de l'Institut d'études sur la sécurité nationale ne sont pas tous de cet avis qu'Israël puisse détruire les installations nucléaires de l'Iran, ni maintenant, ni dans les années à venir. Les Israéliens, ajoutent-ils, craignent aussi que les États-Unis et l'Europe ne refusent l'option militaire contre l'Iran et ne les laissent seuls dans une région enflammée. Les Iraniens, concluent Khan 11, sont donc loin de se laisser intimider par les soi-disant avertissements traduits par la tenue d'une manœuvre d'envergure en mer Rouge et d'une autre encore plus grande qui se tiendrait 2 semaines plus tard avec le déploiement des dizaines d'avions de guerre.
Alors voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos 2 chers invités, en commençant par Aïssar Midani, analyste politique franco-syrienne depuis Paris. Madame Midani, bonjour. Aïssar Midani, est-ce que vous nous entendez? Bonjour.
Oui, bonjour, je vous entends. Bonjour à vous et à tous.
Un plaisir
merci
de vous.
À votre invitation.
Oui, un plaisir de vous recevoir dans l'émission Le Débat. Un grand bonjour à Monsieur Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. Monsieur Dortiguier, bonjour.
Bonjour Monsieur, bonjour Madame Isani, à vos auditeurs.
Voilà, vous vous connaissez bien. J'espère que ça ne va pas vous empêcher de vous contredire.
Non, non.
Oui, c'est un débat concernant le bluff israélien, le bluff qui a duré depuis des années, qui n'a jamais justement intimidé l'Iran. Alors, ma première question va s'adresser à Aïssar Midani depuis Paris. Alors, Madame Midani, pourquoi Israël insiste de continuer à bluffer et donc exercer des manœuvres qui ne vont rien donner et des menaces qui ne vont rien donner contre Téhéran?
Bonjour à vous, bonjour à votre équipe, bonjour à votre invité et puis effectivement, et à tous les téléspectateurs, effectivement, et l'état fantoche d'Israël a toujours vécu sur des bulles médiatiques, sur des mythes de ce type. D'abord, c'était le mythe de la plus grande force de frappe au Moyen-Orient, le mythe de la plus grande démocratie, le mythe de l'armée invincible, etc., etc. Et donc, ces mythes leur ont donné un petit peu de temps de survie, je dirais. Ça a joué jusqu'à un certain temps. Jusqu'au jour où la résistance palestinienne et libanaise et puis l'axe de la résistance, en fait, hein, ont montré la faiblesse de cet État, de ces prétentions que Samahat Cheikh Nasrallah a qualifié aussi faible que les fils des araignées, le fil des maisons des araignées. En fait, effectivement, c'est un État qui est en pleine décomposition au niveau intérieur, qui est en but à la détermination du peuple palestinien qui a décidé et qui est complètement déterminé à la libération de la Palestine, à la résistance de l'ensemble de la région, en fait, à la présence de ce cancer et de ce corps étranger qui n'a absolument aucune place dans la région puisque c'est un appendice de l'impérialisme américain et européen. Donc c'est sûr qu'ils se sentent plus que jamais faibles et donc ils ont recours de plus en plus à des manigances et des gesticulations propagandistes, médiatiques, pour jouer ce bluff. Malheureusement, ce bluff joue sur certaines parties quand même de la population. Les gens craignent peut-être, mais ce nombre de personnes, je dirais, devient de plus en plus faible. Il se réduit de plus en plus. D'ailleurs, on a vu aussi que tout leur réseau d'espionnage, etc., ils ont pris un sacré coup aussi bien au Liban qu'en Syrie que dans l'ensemble de la région. C'est la raison aussi pour laquelle ils essayent d'avoir, par le biais des Américains et par le biais de la pression américaine sur des pays de la région comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, comme le Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, ils essayent d'avoir des amitiés ou des alliances qui leur permettent de se protéger parce que c'est fait effectivement. Ils ont peur, ils ont très très peur. Et c'est pour cacher leur peur qu'ils essayent de jouer ces jeux-là par rapport à la population, par rapport à la oui. population des colons qui ont commencé aussi, il faut le dire, à reprendre le chemin de l'émigration, donc du retour à leur pays d'origine. Et parce qu'ils n'ont plus confiance dans la protection, parce qu'ils ont peur, effectivement, de la détermination du peuple palestinien.
Oui.
D'ailleurs, dernier point aussi qui montre leur peur, c'est cette prise d'assaut, je dirais, du peuple palestinien, contre le peuple palestinien, où ils ne craignent. Et ils tirent sur les jeunes, ils tirent sur les enfants, ils tirent sur les journalistes. À ce titre, je voudrais saluer quand même l'âme de la journaliste Shirin Abou Akleh. Et donc, ils tirent sur tout ce qui bouge, ce qui montre qu'ils sont dans une panique incroyable. C'est ça.
Voilà, merci. Alors, je m'adresse à M. Pierre Dortiguier depuis Toulouse. Alors, Mme Idani nous a parlé très bien des défaillances de la politique intérieure et extérieure d'Israël. Un pays qui a peur, donc un pays qui bluffe. Et on bluffe quand on n'a rien dans le ventre, M. Pierre Dortiguier. Vous n'allez pas me contredire. Alors pourquoi, quand on arrive à approcher des négociations, aboutir à des conclusions, des négociations concernant le nucléaire iranien, tout d'un coup, Israël essaye donc d'empêcher justement des négociations d'aboutir en exerçant des manœuvres bidons comme celles effectuées récemment?
Israël a très bien compris que l'administration américaine de M. Biden est décidée à régler cette affaire de cette fausse discussion sur le nucléaire iranien, car elle ne repose sur rien, et c'était une initiative de M. Trump, vous voyez, qui était sorti unilatéralement des négociations. Et donc, ceci se referme. Les Américains, finalement, là, se montrent positifs ou réalistes. Les Israéliens, disons, ont deux positions constantes dans leur histoire. À la fois passer pour les victimes, voyez-vous, et agir par des menaces autoritaires sur les États mêmes qui les aident, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, etc. N'oublions pas même qu'ils font des sourires jusqu'à la Russie, puisque le premier chef d'État en 2010 russe a visité Israël, a été M. Poutine. Et donc, ils essaient à la fois leur politique d'être présent partout, surtout en réalité en dehors d'Israël, de l'État dit d'Israël, mais en même temps, disons, se montrer aussi, je ne dis pas autoritaire, mais comme des bouts de feu, c'est-à-dire disant qu'ils ne peuvent pas empêcher un conflit d'éclater, qu'ils voudraient bien, mais ils n'arrivent plus à maîtriser la situation. Il y a donc deux aspects chez les Israéliens. Il y a un aspect dur, autoritaire, que l'on connaît. Il y a aussi un aspect de comédien, un aspect, disons, de joueur. En fait, la terre d'Israël, contrairement à ce qu'ils disent, ne les intéresse pas. Ce n'est qu'une étape dans une position générale qu'on dirait mondiale. Ce sont des gens qui sont aussi bien à New York qu'à Jérusalem, évidemment. Vous ne pouvez pas dire que c'est une patrie. C'est un lieu dont on change comme de chemise, vous voyez. Et malheureusement, ce sont les peuples, non seulement palestiniens, mais les peuples d'alentour qui font les frais de cette situation. Situation à laquelle, disons, ont contribué, il faut le dire, qui seront peut-être changés, mais deux grandes nations en 1947 et 48, je le répète, c'est la Russie de Staline et les États-Unis. Bon, et ces deux pays sont en train de payer d'ailleurs leur aveuglement. Vous voyez, il faut se méfier des Israéliens. Ils sont à la fois victimes, ils apparaissent comme des victimes, et disons qu'ils pleurent et ils tuent. Vous voyez, c'est une chose, c'est effrayant vraiment quand on voit les choses de très près. Il ne faudra pas avoir d'illusions, mais il faut être réaliste. Et aujourd'hui, je pense que la crise ukrainienne, la crise ukrainienne, l'invasion de l'Ukraine, etc., Bon, chacun le voit comme il entend, comme il le reçoit. Mais elle a, disons, ce bénéfice de rendre les gens plus positifs, en Europe même. Car en Europe, vous avez un troisième personnage qui est aussi important que les Russes et les Américains. Pour Israël, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui a payé tout ce que l'Israël a. Est-ce que l'Allemagne va continuer en augmentant son budget militaire? Ce n'est pas sûr. Et là, je crois que c'est une véritable inquiétude réelle à ce moment-là de la part des Israéliens. Je le dis avec en souriant du nom de M. Gantz. C'est que Gantz, qui est le ministre de la guerre, est le même nom que l'ancien secrétaire de Kant, le fameux philosophe au XIXe. C'est un homme d'origine allemande. Donc M. Gantz entend très très bien, disons, ce que très modestement je dis.
Voilà. Oui, tout à fait. Pierre Dortigui, est-ce que vous confirmez ce que Mme Midani avance concernant du fait qu'Israël est abandonné par les États-Unis et certains pays occidentaux à cause peut-être de la guerre en Ukraine et peut-être autre chose?
Pardon, je réponds précipitamment. Bien été, monsieur. Je pense que la politique que incarnée par M. Biden va dans un sens réaliste et que elle a déjà été, je le disais, toujours signifié, bien marqué par le retrait d'Afghanistan. Et je crois que, chacun sait que les accusations contre l'Iran, par exemple en matière d'énergie atomique, sont fausses, pour les Américains en premier. Donc, dans la mesure où les intérêts américains l'exigent, eh bien, le réalisme l'emporte. Bien, personne ne croit. En Europe, il n'y a aucun diplomate qui croit au danger iranien, disant que l'Iran veut des bombes atomiques pour lancer sur ses voisins. Je vous assure que vraiment, quand on parle en privé, comme il m'arrive avec d'anciens camarades, de cette action de la diplomatie ou autre, que j'ai connu il y a très longtemps, bien sûr, à Paris, ils sont d'accord avec moi. Mais bien sûr. Donc, Israël, là, joue un jeu dans lequel il ne se reconnaît plus lui-même. Voyez-vous? C'est un peu une hystérie sur le plan pathologique, si vous voulez. Et comme le dit Mme Izani, il ne trouve que deux solutions, que de tirer sur les gens, de tirer sur son propre peuple, sur le peuple, disons, qui contient dans un véritable camp. Vous savez, Israël a fait ça. Bon, on parle de l'époque des nazis. À l'époque des nazis, les Israéliens faisaient ça en Palestine. Vous voyez, bon. Alors, bon, je ne veux pas insister sur ce terme de nazi que je trouve inadéquat. Enfin, bon, parce que je ne veux pas créer d'incident, disons. Mais, non. Je crois que chacun, on joue une pièce de théâtre et sanglante aujourd'hui, en Ukraine aussi, qui prépare une crise mondiale d'un point de vue économique et autre. Et je crois que nous devons nous préparer à des épreuves beaucoup plus grandes dans les temps à venir. Mais il y a un point positif pour l'Iran, pour votre patrie, qui est notre ami. Je crois que le point positif, c'est que toutes ces accusations portées contre l'Iran depuis des années sur les armements, etc., cette rupture des négociations de Vienne, tout ceci est tombé, voyez-vous. Ça, c'est une grande victoire. C'est ça qu'il faut emporter. Je n'ose pas dire que les Israéliens, leurs dirigeants sont des clowns sanglants. Vous savez, on peut toujours dire des choses mais qui ne dépasseront pas la réalité horrible de cette situation en Palestine, qui est une situation, je le répète, qui commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale, essentiellement. Voyez-vous, elle ne commence pas avec le nazisme, elle est bien antérieure. Voilà, je pourrais dire d'autres choses, mais ça me paraît, disons, pas nécessaire, disons. Voyez-vous, je crois qu'on s'enfonce dans une querelle de mots et on ne voit pas les choses. Une dernière chose quand même, je vais dire. On parle des Allemands, oui. Vous savez, les premiers Palestiniens dans le monde n'ont pas été des Palestiniens arabes. Ce ont été tous ces Allemands qui ont été enlevés de leur patrie par millions depuis l'Est. Voyez-vous, c'est-à-dire la Silésie, etc. Dans des conditions horribles dont Konrad Adenauer a parlé, on n'en parle pas. Mais l'histoire est une justice, vous savez. L'histoire dira, au fond, au tribunal dernier, on verra qui est responsable de qui. Et je dois dire que dans ce domaine, permettez-moi, je conclurai là-dessus, je veux dire que l'Iran a toujours conservé une attitude honnête, probe et efficace.
Pierre Dortigui, vous dites que l'histoire fait la justice. Alors, il faudra que les populations soient très patientes pour que la justice soit rendue.
Oh, patience, oui. Vous savez, nous avons une formule grecque la connaissez. Enfin, je le dis par grec. Et la guerre, c'est le père de tout. Le père signifie le maître. Bon, et je crois que nous avançons vers un conflit mondial, pas immédiat, mais inévitable. Il faudra passer cette épreuve, et là, à ce moment-là, les choses s'éclaireront. Il faut préparer quand même notre jeunesse, nos descendants, à des épreuves terribles. Voyez-vous ? Et ça, c'est notre devoir. Le reste, c'est le reste, disons, je le dirais simplement, le reste appartient à Dieu.
Oui, merci Pierre d'Ortiguier. Alors, Madame Midani, est-ce que vous voulez bien réagir à ce qu'a dit M. Pierre d'Ortiguier ?
Écoutez, malheureusement, je n'entendais pas bien son intervention. Est-ce que vous pourriez me dire juste l'essentiel, en fait ?
Oui, en deux mots, il a dit que l'histoire fera la justice et qu'il faut être patient, il faut passer à l'acte pour ne pas se laisser prendre par certaines puissances, dont Israël.
Oui, well, effectivement, il faut passer à l'acte, mais je pense que c'est important aussi de voir le moment opportun. On est aujourd'hui dans une phase qui est très explosive, je dirais, qui pourrait déboucher en une guerre mondiale importante, nucléaire. Je pense que les Américains ne s'encombrent pas de détails à ce niveau, donc c'est important d'être très prudent. Et que de toute façon, l'État d'Israël et cette entité fantoche, elle va disparaître tôt ou tard, avec à la fois la détermination du peuple palestinien, avec aussi le renforcement du front de la résistance aussi, parce que y compris, on voit bien les responsables militaires israéliens, ils sont en train de s'insurger déjà contre les responsables politiques, ou parfois ils disent de toute façon arrêtez, on n'ira pas, on n'est pas en mesure ni d'attaquer l'Iran ni de résister effectivement au front de la résistance, ni à Nasrallah, à Hezbollah, ni à l'ensemble. Et de plus en plus, je dirais, face à un axe, à ce front qui se cimente dans la lutte aussi contre l'État d'Israël, en fait, cet État va disparaître de lui-même. Ils disent très bien que les responsables israéliens disent de toute façon le pays va être vidé sans un coup de feu qui va être tiré par le Hezbollah.
Absolument.
Et les forces de l'axe de la résistance. Donc en fait, je crois que c'est comme ça que Israël va disparaître. Effectivement, il est en voie de disparition.
Tout à fait.
Parce que je disais, l'émigration inverse, l'émigration a commencé. Ils partent tous en fait vers les pays d'origine. Et donc là, ils pensaient trouver, d'ailleurs, on leur a menti aussi, parce que l'État israélien leur raconte qu'on va leur donner la belle vie, la possibilité d'avoir une maison, une voiture, un travail, etc. Ils trouvent aussi que la crise économique en arrivant, elle bat son plein, qu'il n'y a absolument aucune sécurité, qu'il y a absolument des conditions qui sont invivables. Donc ceux qui... Ils partent, en fait, réellement.
Absolument.
Peu à peu, ils partent.
Voilà. Ça,
donc, oui. Pour moi, l'État d'Israël va disparaître de cette manière. Et bon, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils essayent de se trouver ailleurs. Ils partent ailleurs et ils partent partout. Donc.
Voilà, justement, c'est pour ça que l'Iran ne prend pas très au sérieux les menaces d'Israël à son encontre. Aïssa Midani, analyste politique franco-syrienne depuis Paris, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui est restée inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. La plupart des historiens du monde attribuent une grande partie des progrès de la science et de la civilisation humaine à la civilisation iranienne et pensent que l'Iran a apporté une contribution significative à ces progrès. L'année 2022 a été désignée par l'UNESCO comme l'année de commémoration des sciences fondamentales et est célébrée partout dans le monde. Dans cette série de programmes, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et également avec les personnalités éminentes du pays dans ce domaine. Il y a environ 100 000 ans, les Iraniens qui vivaient dans l'ouest de l'Iran actuel, près de Kermanshah et de Hamedan, se sont efforcés de progresser vers une vie meilleure, tout comme la génération d'aujourd'hui. Les connaissances d'aujourd'hui, y compris les mathématiques, sont le résultat des efforts de nombreux êtres humains à travers notre planète. Différents peuples, à différentes époques, étaient à différents stades de la civilisation humaine et toujours appuyés sur leur expérience et leurs connaissances, ont toujours cherché à connaître les lois de la nature et ont donc essayé de surmonter les difficultés en vue de promouvoir leur niveau de vie. Les concepts de base des mathématiques, à savoir la quantité et la forme, ont toujours été associés à l'être humain. Et si l'on prend les mathématiques au sens général, on peut dire que l'ancienneté des sciences mathématiques est égale à l'ancienneté de l'histoire humaine. Dans l'ancien monde, les mathématiques n'avaient pas de sens en tant que science des nombres, mais dans la construction des bâtiments, des installations d'eau, des outils et des équipements, le rôle des mathématiques était tangible dans la vie de l'époque. Certaines règles et méthodes mathématiques, telles que les équations algébriques, étaient courantes dans l'ancienne cité de Suse. L'invention des unités de mesure par les mathématiciens iraniens a rendu uniforme les échelles de mesure dans de vastes régions du monde à cette époque. Les œuvres restantes de cette période indiquent la prise de conscience significative des Iraniens dans le domaine de la géométrie. Les Iraniens connaissaient de nombreuses règles pour calculer la surface et le volume des objets en utilisant de nouvelles relations géométriques et de nombreux scientifiques grecs ont utilisé les connaissances des Iraniens pour développer leurs connaissances de la géométrie. Par exemple, Pythagore, l'un des fondateurs de la géométrie, s'est rendu en Orient et en s'appuyant sur les enseignements de l'Orient ancien, il a réussi à enregistrer en son nom le théorème géométrique de Pythagore. Alors que des preuves historiques montrent clairement que les géomètres de la ville historique de Suse étaient tout à fait au courant du récent théorème, ils n'ont jamais trouvé l'occasion d'en parler avant Pythagore. Au 5e et 6e siècle avant Jésus-Christ, l'Iran avait des contacts culturels avec la Grèce. À la suite de l'invasion de l'Iran par Alexandre, la proximité culturelle des deux puissances de l'époque était plus remarquable. Pendant la domination parthe, un groupe d'érudits de la région iranienne de Sistan s'est rendu en Inde et a établi les traditions mathématiques astronomiques indiennes. Les fondateurs de l'algèbre et de la trigonométrie, en général des branches des mathématiques liées au calcul, étaient iraniens. En Iran, le concept de nombre a été formé comme une quantité variable. Les équations polynominales, nommées aujourd'hui les équations diophantiennes, ont été poursuivies sérieusement et de manière approfondie, et les bases de la géométrie non euclidienne ont été posées. Ainsi, l'Europe occidentale, en s'appuyant sur la culture riche et prolifique de l'Iran, a pu continuer les études en mathématiques. Théoriquement, l'histoire des mathématiques peut être divisée en quatre périodes. Période de formation des connaissances et des concepts mathématiques, période de mathématiques de base, période de mathématiques avec quantité variable et mathématiques de nos jours. L'Iran a connu la première période jusqu'au 7e siècle et après avoir retrouvé son identité nationale à partir de la fin du 8e et du début du 9e siècle, est entré dans la deuxième période de progrès mathématique et même dans la troisième période dans certains champs. Bien sûr, ces informations qui sont basées sur des documents dont nous disposons aujourd'hui peuvent évoluer légèrement avec les découvertes archéologiques à l'appui de nouveaux documents. Dans la première période de l'histoire des mathématiques, les mathématiques et leurs concepts étaient étroitement liés aux besoins quotidiens des hommes, par exemple pour le dénombrement du bétail, le partage des terres agricoles, la construction de temples, de palais, de ponts et de barrages, pour tout calcul lié au commerce, à la navigation en particulier en Iran, etc. Il est naturel qu'avec l'émergence du phénomène de l'urbanisation et des États puissants, les méthodes mathématiques pour résoudre les difficultés aient lentement commencé à évoluer parallèlement à l'augmentation des besoins. Cependant, à cette époque, les mathématiques étaient au service des besoins humains et n'avaient encore pris un aspect abstrait et théorique que dans quelques cas particuliers qu'on le comptage. La période de mathématiques de base doit être considérée à partir du moment où les concepts et les phrases mathématiques sont devenus abstraits. Les Élamites ont régné sur le sud et le sud-ouest de l'Iran à partir du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Ils gouvernaient de vastes terres allant de leur capitale Suse jusqu'aux terres voisines des Sumériens puis des Babyloniens. Depuis plus de 35 siècles, les Élamites ont laissé derrière eux une culture si riche que son effet affecte toutes les époques de la civilisation iranienne. Bien que l'on ait découvert peu de traces de la civilisation élamite, l'écriture et la langue élamite ont été utilisées dans les périodes ultérieures, y compris par les Perses. Pour connaître la culture de Suse, on doit attendre de nouvelles découvertes archéologiques, mais à l'appui de quelques indices dont on dispose, on peut comprendre dans une certaine mesure la profondeur de l'ancienne civilisation de Suse. Les mathématiques à Suse, comme les mathématiques des Mésopotamiens voisins, étaient étroitement liées aux besoins pratiques quotidiens du peuple. Les transactions commerciales, la construction de palais et de temples, la division des terres agricoles, le calcul des rendements des cultures et le maintien des fournitures militaires pendant la guerre ont tous donné une impulsion à l'émergence, à la croissance des mathématiques appliquées à l'élam. L'une des découvertes les plus spéciales de l'ancienne ville de Suse, qui approuve une intention particulière des Iraniens anciens en mathématiques, est une tablette d'argile vieille de 3400 ans sur le thème de la géométrie. Le nombre limité de textes mathématiques trouvés à Suse montre que les mathématiciens de Suse, qui étaient souvent des prêtres et des chefs spirituels, ont non seulement atteint une certaine forme de numérologie, mais ils sont dans certains cas parvenus à de nombreuses conclusions abstraites sur les mathématiques de base. Les mathématiciens élamites connaissaient différents types de triangles et dessinaient des polygones réguliers. Il savait par exemple que la hauteur d'un triangle isocèle passait par le centre de sa circonférence. Le fait est qu'il n'y a aucune preuve de progrès dans les connaissances théoriques et les mathématiques au 6e et 7e siècle, mais à partir de l'architecture des bâtiments et des œuvres d'art laissées de cette époque, on peut voir que les connaissances en ingénierie avaient fait des progrès significatifs. Bien sûr, les sciences telles que l'astronomie et la musique, qui sont étroitement liées aux mathématiques, ont atteint leur apogée au cours de cette période et ont montré l'importance des mathématiques chez les Iraniens de cette époque.